France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le mardi 12 janvier. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les hôpitaux britanniques au bord de la saturation avec l'explosion due au variant anglais du Covid. En France, des élus locaux prennent la main pour accélérer la campagne de vaccination et les étudiants sont de plus en plus fragilisés. On en parlera donc dans le grand entretien de la matinale avec le pédiatre immunologue, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, le professeur Alain Fischer. Le standard vous attend, il est ouvert. 01 45 24 7000. Agnès, les autres titres.
Mike Pence, l'équilibriste, ou comment le vice-président américain tente de sauver les 8 derniers jours de la présidence Trump. Le 15 de France est prêt, mais le tournoi destination aura-t-il vraiment lieu? Et puis, ringarde les agences matrimoniales. Avec la crise du Covid, elles font visiblement de plus en plus d'heureux.
Et à 7h50, avec vous Léa, votre invité.
Oui, Dorothée Barba, on parlait à l'instant, on a passé grâce à lui un été avec Pascal, avec Montaigne, avec Proust. Il donne cet après-midi son dernier cours au Collège de France avant de prendre sa retraite. On avait envie de fêter cela avec lui ce matin, le très grand professeur de littérature française, Antoine Compagnon, sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure Léa.
France Inter.
Les compteurs s'affolent en Grande-Bretagne. Plus de 46 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. 529 décès supplémentaires pour un bilan global de plus de 81 000 morts. Et le pic n'a pas encore été atteint. Les prochaines semaines seront les pires de la pandémie, a prévenu le ministère de la Santé. Le nombre de malades hospitalisés a augmenté de 22% en une semaine. 32 000 patients sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux débordés. La situation est particulièrement critique à Londres. Reportage de notre correspondant Richard Place.
C'est un imposant bâtiment gris et vert, c'est le University College Hospital. À travers la baie vitrée qui orne la façade, on peut voir le personnel et les patients. Tout le monde porte un masque et tout le monde paraît assez calme. Pourtant, dans les étages, dans les couloirs, c'est l'animation comme jamais depuis le début de cette pandémie. Amira est infirmière en soins intensifs ici à Londres. Elle ne veut pas dire dans quel établissement elle travaille. Elle craint des représailles de la part de sa direction parce qu'aujourd'hui, elle prend la parole pour dire sa fatigue, son épuisement, le manque de moyens et la difficulté de faire correctement son travail.
C'est très effrayant, c'est traumatisant. Je ne sais pas où nous allons puiser, mes collègues et moi, la force pour nous lever le matin, pour retourner au travail ou le soir quand nous faisons des gardes de nuit. Des médecins d'autres services viennent nous aider en soins intensifs, mais ils n'ont pas été formés pour ça. C'est fou. On redoute tous beaucoup plus de morts dans les jours et les semaines qui viennent.
Amira raconte ses journées interminables où elle ne s'accorde aucune pause de peur des conséquences dramatiques. Alors chaque jour, avant de venir travailler, elle boit très peu pour ne pas aller aux toilettes de la journée. Elle fait ce métier depuis 10 ans. Elle était là pendant la première vague. Elle a aussi participé à des missions humanitaires dans des camps de réfugiés au Moyen-Orient. Mais elle n'a jamais connu une telle pression, dit-elle aujourd'hui. Londres, Richard Place, France Inter.
Le pays est reconfiné et mise sur une vaste campagne de vaccination. 7 centres sont ouverts actuellement, dont un dans un hippodrome au sud de Londres. 2700 centres seront à terme opérationnels selon un plan dévoilé hier à Londres. Objectif au moins 2 millions de vaccinations par semaine jusqu'au printemps. Situation critique également au Portugal avec 122 morts pour la journée d'hier et un reconfinement en vue. En France, les hospitalisations, y compris en réanimation, sont en augmentation. 310 décès supplémentaires enregistrés hier. En France, où la vaccination se met en place après les lenteurs des premiers jours, les élus locaux ont décidé de s'organiser. C'est le cas notamment à Meaux, fief de l'ancien chef de l'UMP, Jean-François Copé, qui a mis à disposition son immense salle des fêtes, baptisée le Colisée, et où s'est rendu Laurence Perron.
La cravate, sous la blouse blanche, le docteur Allard, ex-patron en hématologie à l'hôpital de Meaux, supervise les 3 boxes de vaccination.
Alors, comment c'est organisé? Premier box, consultation médicale pré-vaccinale.
Vous avez vérifié en fait les différentes étapes, vous savez, pour éliminer les contre-indications pour le vaccin.
On avise une petite dame, sa carte vitale à la main.
Alors, vous venez vous faire vacciner?
Bah absolument. J'ai 83 ans, mais je veux absolument me faire vacciner. Parce que ma femme de ménage, qui ne voulait pas se faire vacciner, dont la fille est infirmière, je l'ai convaincue, elle se fait vacciner. Et mais par contre, elle n'a pas convaincu sa fille. Et ça, ça me désole.
Les réticents, les prudents, ça n'est pas le sujet de Jean-François Copé. Le maire qui a dû, dit-il, taper du poing sur la table pour monter son centre.
Paris a coupé le cordon avec les maires. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est un peu le rossignol habituel. Là. C'est le numéro qui consiste en permanence à nous sortir le coup du couple maire-préfet dans les discours, mais de ne jamais mettre ça en application. Voilà. Bon, quant aux pauvres préfets, je vais vous dire, ils sont au courant de rien non plus. Parce qu'à chaque fois qu'on les a sollicités, ils disent on attend les consignes. Donc il y avait un côté un peu septième compagnie au clair de lune. Vous voyez ce que je veux dire?
Pour l'heure, les vaccins sont réservés aux habitants du Grand Meaux, mais les équipes de Jean-François Copé se disent prêtes à partager l'espace et l'expérience pour permettre un maximum de vaccination.
Reportage de Laurence Perron. Possible aussi la prise de rendez-vous via les sites privés Doctolib, Maya et Keldoc et via le site public santé.fr. Mode d'emploi dans le journal de 7h30. Hier soir, selon les chiffres officiels, la France comptait un peu plus de 138 000 personnes vaccinées. Les jours sombres de l'université de Lyon 3. Un étudiant en master 1 de droit a tenté de se suicider ce week-end. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place et le président de l'université appelle à un plan d'urgence pour la santé mentale des étudiants. Mathilde Imberti est allée à leur rencontre hier sur le campus lyonnais.
Les cours à distance, une vie sociale à l'arrêt, le moral plonge forcément, dit Cilia, Ilona et Imen en licence de droit à Lyon 3.
On en souffre toujours, de la solitude, de ne pas pouvoir vivre sa vie comme on le veut en fait.
Tout le temps, toute seule devant mon écran, toute seule pendant les repas, enfin toute seule tout le temps en fait.
C'est la solitude, c'est certains perdent leur travail, enfin moi personnellement j'ai perdu mon job et ça a été compliqué.
Si compliqué qu'elles ont décroché, alors l'université les convie exceptionnellement à un peu de cours en présentiel. La tentative de suicide d'un autre étudiant en droit les chocs, bien sûr, sans les surprendre.
C'est peut-être bizarre, mais ça ne m'a pas non plus étonnée. L'année dernière, on a déjà eu un étudiant qui s'est immolé. Donc je pense que la détresse étudiante, elle est là et qu'il faut peut-être l'écouter à un moment donné.
Bah, on sait que ça existe. Il faut juste espérer qu'il s'en sortira et que ça n'arrive plus.
Il y a une urgence sociale, martèle le président de l'université. Lyon 3 se lance dans un plan d'action solidaire avec prêt d'ordinateur, aide financière ciblée. Mais on n'y arrivera pas seul, prévient Eric Carpano.
Le distanciel n'est pas terminé, malheureusement. Et puis il faut penser à l'après. La question de la santé mentale va perdurer pendant encore plusieurs années et il faut vraiment mettre les moyens là-dessus. On est à un psychologue pour 1500 aux États-Unis. Chez nous, c'est un pour 30 000.
Le recteur évoque des embauches d'assistantes sociales. Une, deux, peut-être trois. Il faut changer d'échelle, implore le président de Lyon 3. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et dans le monde, ce sont 136 millions d'enfants vivant dans les 59 pays les plus pauvres qui sont privés d'école depuis des mois. L'ONG Save the Children lance un appel aux donateurs internationaux pour éviter une génération perdue. Scolariser un enfant en Syrie, au Yémen, durant un an, coûte environ 300 euros. L'électricité plus chère à partir du 1er février, une hausse de 1,73% pour couvrir l'augmentation des frais de production liés en partie au Covid. Sur 10 ans, les tarifs de l'électricité ont progressé de 50%. En bref, encore un incendie sur le principal site de diffusion de la FM et de la TNT près de Limoges. Résultat, près d'1,5 million d'auditeurs ne peuvent plus écouter France Bleu Limousin, France Bleu Périgord, France Inter, France Culture et France Musique, sauf à passer par le numérique.
Il est 7h08, Agnès. Une bonne conversation dans le bureau ovale.
Donald Trump et son vice-président Mike Pence, qui ne s'étaient plus parlé depuis les violences au Capitole, se sont donc retrouvés hier soir à la Maison-Blanche. Alors que Donald Trump est la cible de deux procédures initiées par les démocrates, l'une de destitution qui doit être votée la semaine prochaine à la Chambre des représentants, et une s'appuyant sur le 25e amendement qui permet de déclarer un président inapte. La résolution doit être votée dans la journée. Mike Pence ou le difficile exercice d'équilibriste, Franck Matevon.
Mike Pence et Donald Trump ne s'étaient pas parlé depuis mercredi. Ils ont eu hier une bonne conversation d'après la Maison-Blanche. On a connu des comptes rendus d'entretien plus enthousiastes. Le face-à-face a eu lieu loin des caméras. Le 6 janvier, Donald Trump avait accusé son vice-président de ne pas avoir eu le courage de ne pas certifier les résultats de la présidentielle. On a ensuite entendu la foule se ruant sur le Capitole crier « Pendez Pence ». Mike Pence, moine soldat du trumpisme pendant 4 ans, espérait un meilleur traitement. Il n'aura vraisemblablement pas recours au 25e amendement pour démettre Trump, comme le lui demandent les démocrates. Le tête-à-tête d'hier le montre, mais il s'est bien gardé de le dire publiquement. Il laisse planer le doute. Mike Pence veut, semble-t-il, montrer que la Maison-Blanche fonctionne encore, que l'Amérique peut compter sur lui. Il collabore depuis novembre avec l'administration Biden. Contrairement à Trump, il assistera à l'investiture du nouveau président en se disant peut-être qu'il se verrait bien à sa place dans 4 ans. Washington, Franck Madvon, France Inter.
Et Twitter annonce ce matin avoir suspendu depuis vendredi plus de 70 000 comptes qui relayaient les théories complotistes du mouvement QAnon. Une ombre plane sur le rugby européen. Fabien Galthié a bien présenté hier soir sa liste des 37 joueurs sélectionnés pour le tournoi des Six Nations, censé commencer dans moins d'un mois. Mais les Coupes d'Europe de rugby sont suspendues au moins jusqu'à début février. Et le tournoi féminin des Six Nations est d'ores et déjà reporté. Deux réunions décisives sont prévues dans la journée, Fanny Le Chevestrier.
Ce qui est certain ce matin, c'est que le comité des Six Nations et la Fédération française de rugby vont tout faire pour que le tournoi masculin puisse se tenir comme prévu à partir du 6 février. C'est vital pour les finances des fédérations, avec 110 millions d'euros de droits télé dans la balance. Alors au crédit d'un maintien de la compétition, la réussite de la Coupe d'automne des Nations en novembre avec des matchs à huis clos et la mise en place de bulles sanitaires strictes autour des équipes nationales, à l'isolement par exemple, comme à Marcoussis pour les Bleus. Les Français peuvent également mettre en avant le fait qu'ils débutent en Italie et que le match face aux Anglais a lieu seulement en mars, mais le dernier mot reviendra toutefois au gouvernement. En revanche, le sort du tournoi féminin est lui déjà scellé. Son report au mieux au mois d'avril sera acté dans la journée. Toutes les équipes nationales n'étant pas professionnelles, impossible d'établir des bulles sanitaires et d'isoler les joueuses qui ont un métier à côté durant plus d'un mois et demi. La tenue de la compétition est pourtant là aussi capitale à 8 mois de la Coupe du Monde.
Enfin Nicolas, comment trouver l'âme sœur partant de Covid? Oui. Les applis, les sites de rencontres bien sûr, mais pas toujours évident pour les seniors qui semblent se retourner vers les agences matrimoniales que l'on croyait presque disparues. Enquête signée Béatrice Duguay.
Françoise est divorcée, petite soixantaine, joviale.
Je vais juste vous dire ce que m'a dit ma cousine. En plein confinement, toi, tu arrives à trouver l'âme sœur.
Car Françoise, qui habite près d'Évreux, a rencontré son compagnon, petite soixantaine aussi, juste avant le deuxième confinement. Elle le doit à Laurence Mac, qui a vu la clientèle de son agence matrimoniale augmenter de 30% en 2020. Beaucoup de demandes de célibataires, veufs ou divorcés.
Les personnes me disaient, si on était en couple, la solitude serait beaucoup moins compliquée. On peut partager, on peut dialoguer. On peut jardiner, on peut cuisiner ensemble, parce que forcément, ils ne voient plus les enfants, les petits-enfants.
Et plus de café, plus de cinéma, plus de clubs de sport. Bref, les possibilités de faire des rencontres sont réduites à néant. Dans ce contexte, Laurence Mac est une facilitatrice.
Ils savent que si je les ai mis en contact, c'est que forcément, je sais qu'ils ont des points communs, des centres d'intérêt et le même fonctionnement dans leur couple.
Bien sûr que ça m'a beaucoup aidée, parce que là, le deuxième confinement, il aurait été beaucoup plus difficile. Parce que aussi, je suis tombée sur la personne que j'attendais, en gros.
Car Laurence pose un tas de questions, se fait confidente, rien à voir avec les rencontres via Internet.
On peut dire ce qu'on veut devant un ordinateur, c'est un peu la marchandisation de la rencontre. Il faut savoir également que moi, je n'inscris pas une personne qui n'a pas pu justifier de son identité.
Les clients de Laurence Mac ont de 45 à 80 ans, 90 même récemment, pour un monsieur qui continue à jardiner avec sa nouvelle compagne.
Voilà, agence matrimoniale, appli, site de rencontre, à vous de choisir.
Il faut imaginer Cupidon masqué. Merci Agnès Soubiran.